Le manche disque. L'émission qui tourne,
qui tourne, qui tourne, qui tourne.
À 33 tours minutes.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, chers auditeurs. Bienvenue dans le manche disque une nouvelle fois dans des conditions de confinement, donc avec les moyens du bord. Salut Julien.
Salut, salut.
Donc on lâche rien.
27e émission et voilà, on lâche rien. On est toujours là et on s'est dit 27e émission, ça nous a fait penser au club des 27.
Club des 27. Bien sûr, le club des 27, désormais, qui fait désormais partie de la culture musicale, n'est-ce pas ?
Oui, c'est une sorte de mythe un peu, hein, comment dire, une sorte de légende, pas légende urbaine, parce que c'est des faits avérés, mais voilà, c'est le rock'n'roll qui se construit ses légendes, quoi.
Voilà, et puis hors antenne, on se disait aussi que c'était aussi un formidable outil marketing pour vendre des disques à titre posthume.
Oui, exactement. Exactement, on peut avoir effectivement ce regard un petit peu critique. Mais bon, pour nous, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à des musiciens dont bon nombre font partie de ceux qu'on écoute assez régulièrement. Peut-être d'autres un peu moins, mais dans le club des 27, je pense que si on rassemble la plupart des disques des artistes qui en font partie, on a quand même une belle petite collection. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous faire écouter ce soir.
Exactement, parce qu'au-delà d'être tous morts à 27 ans, ils ont aussi un autre point commun, ce club des 27, c'est qu'ils sont absolument pas dégueux artistiquement et ils ont, d'une manière ou d'une autre,
voilà.
Parfois avec un ou deux disques simplement, bien marqué leur époque. On va le voir tout de suite. Et on va commencer tout de suite, si tu veux bien, Julien, par Robert Johnson, qui, me semble-t-il, est le premier membre du club des 27, chronologiquement.
Effectivement, Robert Leroy Johnson, qui est né en 1911, est le premier à fonder ce club. Bon, je pense que comme c'est le premier, il n'y a pas encore de club à l'époque et au moment de sa mort, mais on va finir par créer ce club et le mettre dedans en disant que c'est le premier. Donc Robert Johnson, vous connaissez probablement la légende, un jeune bluesman qui veut échapper à une condition de vie d'extrême pauvreté, donc qui part marcher sur les routes avec sa guitare. Alors, il commence à jouer, ça se passe pas très bien, il rencontre le guitariste de blues Son House pour la première fois en 31, celui-ci le ridiculise un petit peu en disant « tu sais pas jouer de la guitare, laisse tomber ». Bon, Robert disparaît, il va revenir quelques temps plus tard en ayant fait des progrès tellement de ouf que Son House se dit même dépassé, et de là va naître la légende. Alors, une légende qu'on lui attribue à lui, qu'on lui attribue aussi à Tommy Johnson, qui lui, carrément, expliquait avoir vendu son âme au diable. Effectivement, voilà, cette légende, c'est il aurait vendu son âme au diable en échange de jouer de la guitare. Ça devient un grand, grand bluesman qui enregistre quoi, 28 titres ou peut-être un petit peu plus. Enfin, voilà, très, très peu, mais en même temps, sur une période très, très courte, parce qu'évidemment, voilà, il meurt à l'âge de 27 ans. En 1938, d'une cause assez mystérieuse. Il y en a qui disent qu'il a été empoisonné par un mari jaloux, d'autres qu'il a succombé à la syphilis ou à une pneumonie. En tout cas, sur son certificat de décès, on aura dans la cause de la mort la mention « no doctor », c'est-à-dire « pas de cause établie ». Et puis, on ne sait même pas trop où il est enterré, parce qu'il y a un cyclone qui a ravagé les lieux de sa mort, etc. Donc, pas de corps, une mort mystérieuse, un pacte soi-disant avec le diable, peut-être lui. Voilà, il n'en faut pas plus, je pense, pour ouvrir ce club des 27 avec une destinée mystérieuse. Donc moi, j'ai choisi comme morceau, thématiquement, hein, un truc qui peut coller, puisque j'ai choisi « Hellhound on my trail », ce qui veut dire « les chiens de l'enfer sont à mes trousses ». Donc c'est un morceau qui est notamment lié à cette espèce de mythologie de personnes qui se disaient des fois poursuivies par des chiens venus des enfers qui tournaient autour de leur maison, etc.
Hellhound on my trail. sweet ride just to pass the time away. To pass the time away. He's breaking heart for trouble around my door, all around my door. You make a heart for trouble around your daddy's door. It keeps me with a rambling mind right on. Every old place I go, every old place I go. I can tell the wind is rising, the leaves trembling on the tree. Standing on the tree. I can tell the meaning driving, please standing on the tree. All I need, my little sweet woman, and to keep my company. My company.
C'était donc le légendaire donc Robert Johnson et son blues endiablé, possédé par le démon. À présent, nous allons passer à un illustre membre du Club des 27, j'ai nommé Brian Jones, le Rolling Stone, du début oui. D'ailleurs, hein, qui est parce que les Rolling Stones quand même se caractérisent par deux grandes périodes, l'une avec Brian Jones et l'autre sans. On oui. sait d'ailleurs que la mort de Brian Jones suit vraiment de très près hein, la scission du groupe. Le fait qu'il ait été un petit peu éjecté hein, par Keith Richards et Mick Jagger parce que, selon eux, il devenait ingérable et beaucoup trop dépressif pour la dynamique du groupe. Hein. Il souffrait beaucoup de problèmes psychologiques, voire psychiatriques, important. D'autres, il y a aussi des théories alternatives hein, qui veulent que Brian Jones soit aussi la pierre roulante le moins enclin à des concessions commerciales au niveau de l'écriture des morceaux et que du coup il freinait les ambitions des deux leaders, deux autres leaders, on va dire, du groupe.
Effectivement, c'est une histoire très triste parce que c'est quand même le membre fondateur à la base. Et puis c'est lui qui va amener le nom et tout ça, je crois. Et puis petit à petit, effectivement, il y a ce décalage avec les deux, Jagger et Richard, qui prennent un peu le contrôle du groupe parce qu'ils composent davantage que lui. Et puis ils remettent un peu en question son leadership. Lui, il apparaît à une époque où il est de plus en plus fragilisé par les drogues, le mal être, etc. Et ça aboutit à une rupture définitive. Donc là, en fait, on va vous passer un morceau d'un album des Rolling Stones qui s'appelle The Rolling Stones, qui est, je crois, leur deuxième, ou je ne voudrais pas dire de bêtises, en tout cas, il date de 1964. Il est sorti le 17 avril 1964. Alors, à l'époque, il est encore, comme c'est souvent le cas, pour les groupes qui montent à cette époque-là, constitué énormément de reprises diverses, hein, Chuck Berry, le Walking the Dog de Thomas, etc. Il y a à noter quand même une composition des Glamour Twins qui est Tell Me You're Coming Back, qui est la seule composition dans l'album. Et là, j'ai envie, moi, de vous passer un morceau qui s'appelle Can I Get a Witness, qui est de Holland and Dozier. Love that way.
to get a witness. I want a witness. Witness, witness. Witness, witness. Does everybody know, especially you girls, that a love can be sad, but half a love is twice as bad. Now you chicks do all agree that ain't the way love's supposed to be. Let me hear you say, yeah, I want a witness. I want a witness. Yeah, I want a witness. Somebody has it right to be treating so bad. Then to give it everything you have. People are talking in my sleep, cause I haven't seen my baby all week. Cause me so much misery. That's the way it's supposed to be. Let me hear you say, yeah, yeah. I want a witness. I want a witness. I want me. I want a witness.
Le manche disque.
This is a song with a message. I wanna tell you all a story about this chick I know. They call her Amphetamine Annie. She's always shoveling snow. I sat her down and told her, I told her crystal clear, I don't mind you getting high, but there's one thing you should fear. Your mind might think it's flying, baby, on those little pills, but you ought to know it's dying, cause speed kills. But Annie kept on speeding, her help was getting poor. She saw things in the window, she heard things at the door. Her mouth was like a grinding mill, her lips were cracked and sore, her skin was turning yellow. I just couldn't take it no more. She thought her mind was flying on those little pills. She didn't know it was going down fast, cause kill you too, baby. Hold it in. Baby, so. Yeah. That's a good part.
C'était une chanson avec un message, comme l'a présenté le groupe Canned Heat avec ce morceau de l'album Boogie with Canned Heat de 1968, Amphétamine Annie, un morceau assez connu de la formation. Formation d'ailleurs qui tire son nom d'un vieux blues de Tommy Johnson, celui qui aurait lui aussi fait un pacte avec le diable, écrit en 1928 et dont les paroles évoquent un alcoolique qui se met à consommer du Sterno Canned Heat, un alcool dénaturé et gélifié mis en conserve afin d'y être allumé pour cuisiner. En pleine prohibition, c'est ce que buvaient les plus démunis. Alors on vous a passé un Canned Heat parce que malheureusement, un petit peu moins connu peut-être dans le Club des 27, figure Alan Wilson, guitariste, harmoniste et chanteur du groupe américain, qui est décédé le 3 septembre 1970 d'une overdose.
Ok, eh ben, écoute, on va rester dans l'overdose. Hein. De toute façon, je pense que ça va être un thème assez récurrent de ce Club des 27, avec un illustre membre, encore une fois, j'ai nommé le fameux Jimi Hendrix, qui nous a quitté lui aussi à 27 ans en pleine ascension et au sommet de son talent, ce qui participe bien entendu à sa légende. Et je n'ai pas besoin de faire de présentation, me semble-t-il, de cet illustre guitare héros et aussi très très bon chanteur, hein, ce qu'on parfois lui attribue moins facilement, mais que je trouve très présent sur ses albums. Il a une formidable voix.
Il avait du mal avec sa voix, je crois.
Ouais, mais à tort.
Il a fallu que les producteurs le poussent un peu au cul, si je puis me permettre, pour lui dire de chanter, parce qu'il n'aimait pas sa voix et il a vraiment été réticent à chanter au début.
Ouais, alors qu'il a vraiment un timbre très intéressant et qui colle vraiment vraiment avec avec le blues électrique qui transpire de son rock. Je vous ai choisi donc un morceau issu du troisième et dernier album studio de Jimi Hendrix avec The Jimi Hendrix Experience de 68, ce fameux album Electric Ladyland avec cette pochette mythique pour les amoureux de vinyle peuplée de femmes nues. Et le morceau que je vous ai choisi, ce n'est pas le plus connu de l'album dans la grande tradition du manche-disque et des découvertes. C'est un morceau qui s'appelle Still Raining, Still Dreaming, qui est le premier morceau de la phase 4, me semble-t-il, et qui illustre tout à fait les talents multiples de Jimi Hendrix. Getting up tight, just let it groove its own way. Let it drain the worries away. Lay back and groove on a rainy day. Lay back and dream on a rainy day. Thank you. Et à présent, chers auditeurs du Mangis, vous êtes toujours sur Radio G 101.5, cette spéciale 27e émission du Manche Disque consacrée au club des 27. C'est le moment de présenter en tout cas la première femme de ce club des 27, tristement disparue, très jeune aussi. J'ai nommé Janis Joplin. Janis Joplin, qui auparavant, avant de disparaître, a fait les beaux jours de sa formation avec Big Brother and the Holding Company.
Oui.
Et qui ensuite a continué en solo avec toujours le même talent, la même voix très atypique, le même répertoire et la façon de chanter très inspirée aussi, même si elle est souvent associée au mouvement rock psychédélique des 60s. Elle est quand même, il y a certains albums, certains morceaux qui auraient pu être chantés par des grands noms du R&B, du rhythm and blues américain, noir américain.
Oui, tout à fait.
Puisqu'on voit bien que c'est la musique qui la passionne, hein, c'est absolument prégnant.
C'est vrai, c'est la musique qui la passionne, et c'est les grandes dames du R&B, de la soul et tout ça, c'était aussi des modèles pour elle, hein. Elle les cite abondamment, elle a participé, je crois, à la réflexion de plusieurs pierres tombales de ces grandes dames, un peu oubliées, ou voilà. Donc elle était vraiment, c'était les racines même de son art, je pense, hein.
Oui, tout à fait. Ça a été confirmé par un très bon documentaire qui est passé sur Arte il y a quelques temps, quelques mois, je crois, et que je vous conseille, si vous arrivez à le retrouver, chers auditeurs, pour apprendre un peu plus sur sur l'arrière-plan de cette carrière éclair, hein, et puis de cette disparition tragique et cette vie dramatique, vraiment. Hein. Je pense que Janis Joplin la caractérise vraiment.
C'est très triste.
C'est extrêmement triste, je veux dire, tout le côté vie personnelle de Janis Joplin est tout à fait aux antipodes du succès foudroyant qu'elle a eu musicalement. C'est très, très, très intéressant, en tout cas. Et puisqu'on évoque les racines donc du rhythm and blues de sa voix, eh bien, j'ai choisi un morceau qui figure sur l'album posthume un an après sa mort, donc en 71, hein, qui a été publié, qui s'appelle Pearl, que le seul enregistrement d'ailleurs qu'elle a fait avec la formation dont j'oublie le nom, Full Tilt Boogie, voilà, Full Tilt Boogie.
Ouais, Full Tilt Boogie Band.
Voilà, c'est ça. Et dessus figure donc ce morceau que je vous ai choisi, qui s'appelle Half Moon, et qui vraiment illustre tout ce qu'on a dit sur ses influences musicales. Voilà. On peut fermer les yeux, s'imaginer une chanteuse noire américaine, et l'évidence vous frappe. Alors, voilà, on s'écoute ça tout de suite.
Like a sea, Lord, and I'm coming past. We'll still.
Le manche-disque.
Sur Radio G et le Manche Disque, et on ne pouvait pas évoquer ce club des 27 sans forcément un contemporain d'ailleurs de Janis Joplin, Jim Morrison.
Tout à fait.
Et sa formation The Doors. Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Backdoor Man et il est issu du premier album des Doors en 67, album éponyme qui a lancé leur carrière chez l'illustre label Electra.
Eh ben, on parlait de Morrison et ça tombe bien parce que ça me permet d'enchaîner. Enchaîner parce que à la base, Iggy Pop en fait, dont on va parler présentement, alors qui n'est pas mort, qui est, Dieu merci, et qui ne fait pas partie du club des 27, mais qui fait partie des Stooges. En fait, il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Après avoir vu un concert des Doors où Jim Morrison était particulièrement sous l'emprise de toxiques et donc particulièrement mauvais, le pauvre. Et là, il s'est dit, bah si Jim Morrison il arrive à faire ça, moi je vais pouvoir y arriver aussi. Donc il rameute des frères. Et les frères Ashton, et il commence à travailler avec eux, et puis il a envie de passer au chant en délaissant complètement la guitare. Donc Ron Ashton passe lui à la guitare, quitte la basse pour la guitare, et fait venir Dave Alexander. Dave Alexander qui va être le bassiste sur les deux premiers albums des Stooges, avant de se faire exclure du groupe en 1970 à cause de sa trop grande consommation d'alcool. Donc voilà, il a participé à The Stooges, il a participé à Fun House, et après Exit, malheureusement. Alcoolique au dernier degré, il n'arrivait même plus à jouer sur scène. Il va mourir quelques années plus tard, en 1975, d'un œdème aigu du poumon et de malnutrition. Donc c'est quand même assez... voilà, ça montre l'état de délabrement de ce pauvre jeune homme. Les Stooges vont continuer leur route avec le destin qu'on connaît, avec l'étape anglaise, avec David Bowie, etc. Et puis, petit clin d'œil, lorsqu'ils vont se reformer en 2003, c'est Mike Watt des Minutemen qui va tenir la basse et qui va souvent arborer un t-shirt lors des concerts à l'effigie de Dave Alexander. Donc là, moi, je vous propose un morceau du deuxième album, donc des Stooges, le dernier dans lequel a joué Dave Alexander, qui est sorti le 18 août 70, 5 ans avant la mort d'Alexander. Et je vous propose le morceau « Lose ».
Look out.
À présent, chers auditeurs et auditrices, je vous propose, après ce rock saturé et déstructuré, caractéristique hein, des Stooges, si caractéristique de la bande à Iggy Pop, je vous propose d'aller du côté du grunge rock Et notamment, comment ne pas évoquer, quand on parle du Club des 27, eh bien, l'illustre Kurt Cobain, le regretté, le très regretté Kurt Cobain, le fondateur, bien sûr, du groupe Nirvana, qui a tant passionné dans les années 90, notamment les adolescents, on va dire plus ou moins tourmentés de l'époque, dont peut-être j'ai moi-même fait partie du fait de mon année de naissance. Enfin bref, c'était un vrai phénomène, il est vrai, à l'époque, c'était un vrai phénomène que ce Nirvana et Kurt Cobain, dans son lâcher-prise totale sur toutes les esthétiques à la mode à cette époque-là, eh bien, a provoqué un mouvement de fascination et est devenu, au-delà de l'artiste talentueux qu'il était, il est devenu aussi une véritable icône pour toute une génération qu'on a appelée plus tard la génération X. Donc, pour évoquer Kurt Cobain musicalement dans cette émission spéciale Club des 27, je vous ai choisi un morceau qui va peut-être aussi piquer la curiosité des possesseurs de l'album Nevermind, hein, le deuxième et plus gros succès du groupe Nirvana. Et il se trouve que sur certaines versions, pas toutes, et principalement des versions CD, donc je fais peut-être une entorse à la règle, eh bien il y avait un bonus track, donc un titre caché. Il fallait attendre la fin du CD et attendre une poignée quand même importante de secondes avant d'accéder à un morceau qui s'appelle Endless Nameless, qui figure donc, je le répète, sur certains CD et pas tous, et à ma connaissance, pas en vinyle, sauf sur la seule que je connaisse qui contient ce bonus track, en plus de bien d'autres bonus tracks, hein, c'était une édition 4 vinyles, je crois, spéciale pour les 20 ans de cet album Nevermind, et donc en 2011, puisque Nevermind est sorti en 1991. Donc, je vous laisse avec ce morceau, assez long, mais surtout très représentatif, me semble-t-il, hein, parce qu'il est très dérangeant, très représentatif des tourments et, je pense, de la souffrance que pouvait ressentir Kurt Cobain à certains moments de son existence. Vous allez écouter, j'ai envie de vous dire presque âme sensible s'abstenir, parce que la puissance de cette souffrance transpire sur ce morceau. Endless Nameless, qui, je le répète, n'est vraiment pas monnaie courante sur les éditions de ce pourtant très 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 vendu album Nevermind. Vous savez, pour ceux qui ne l'ont pas dans leur esprit, c'est le fameux album avec ce bébé qui nage, semble-t-il, dans une piscine. C'est devenu un album majeur, un album symbole presque du rock des années 90. Encore aujourd'hui.
We'll be right back.
Le manche disque.
Anyway, donc le titre du morceau est bien dans, dans l'esprit de cette émission, un petit peu morbide, hein, mais bon voilà, de l'album Frenching the Bully du groupe de punk rock de Seattle, The Gits. Alors The Gits, moi j'ai envie de vous en parler parce que là on est effectivement sur une oubliée du Club des 27, et pour ça je vais revenir sur ce groupe par le biais d'un article écrit par Azadine Fall des Inrecuptibles, un article publié le 20 juillet 2015, donc qui nous explique en fait le destin de Mia Zapata. Donc, violée, assassinée et abandonnée sur un trottoir de Seattle en juillet 1993, Mia Zapata est la chanteuse oubliée du Club des 27. Avec son groupe The Gits, formé à Yellow Spring dans l'Ohio en 1986, la jeune femme a pourtant participé à l'incroyable activité de la scène grunge du nord-ouest des États-Unis. Fan de Janis Joplin, Billie Holiday, Jimmy Reed et Sam Cooke, la jeune Zapata aime aussi la culture punk et décide de rejoindre Seattle à la fin des années 80, attirée par la réputation grandissante de la scène locale. Son groupe la suit, elle trouve un boulot de serveuse dans un bar rock et la troupe emménage rapidement en colocation dans un immeuble désaffecté. La poésie des paroles de Gitz et la voix rauque de Mia attirent de plus en plus de public dans les concerts, le groupe commence à se faire un nom à Seattle. Friends Sing the Bully, leur premier album sort en 92, une douzaine de morceaux nerveux dont la majorité ne dépasse pas les 2 minutes 30. Enrobé d'une bâche saute qui dicte souvent la cadence des compositions, le punk rock tendu des Gitz séduit Atlantic Records, qui contacte les musiciens et leur propose un contrat. En juin 1993, une tournée nationale est bookée, Mia se coupe les cheveux et commence à s'habiller à la manière des stars de l'époque qu'elle côtoie. Elle donne même des concerts solos jusqu'à Los Angeles, mais garde la ville émeraude comme camp de base pour composer le deuxième album des Gitz, Hunter the Conquering Chicken, qui ne sortira qu'à titre posthume. Car la nuit du 7 juillet, la chanteuse de 27 ans quitte le Comet Tavern, un bar cool de Capitol Hill, quartier historique de la contre-culture de Seattle. Il est 2h du matin. Elle décide de rendre une courte visite à un ami avant de prendre la route de la colocation. Sur les coups de 3h30, son corps sans vie est retrouvé à quelques centaines de mètres sur un trottoir du Central District. L'autopsie révélera qu'elle a été violée avant d'être étranglée. C'était un mélange du Club des 27 et de Fait entrer l'accusé. Là, je me suis fait un petit plaisir là-dessus. On a des faits divers sortis.
Ah ben carrément, puis ça a renforcé la joie quand même, hein, et les belles histoires, oui, hein, de cette émission, parce que je crois que c'est aussi ce qui caractérise le Club des 27.
Pour avoir le moral en cette période de confinement, on s'est dit, si on va parler de gens jeunes qui meurent horriblement.
Voilà, exactement. Comme ça, bah, on remarque qu'il y a un petit effet, un petit effet vaccin, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, on se dit, bah ouais, finalement, on n'est pas si.
Ça pourrait être.
Voilà,
pire,
on n'est pas si mal loti. Et donc, on va, bah, une fois n'est pas coutume, hein, clôturer ce Club des 27 avec aussi une femme qui, elle aussi, a vécu bien des tourments et est partie bien trop tôt. J'ai nommé Amy Winehouse, hein, la oui, plus proche de nous en termes de temporalité de ce Club des 27. Amy Winehouse, voilà, une star, une étoile filante, hein, qui, après avoir fait deux magnifiques albums studio, dont ce dernier, Back to Black, qui est vraiment salué par la critique et qui est incontestablement pour moi un album extraordinaire, on va dire de bout en bout. Il n'y a rien à jeter dans cet album.
Très bon, c'est vrai.
Très très bon, très très homogène. Voilà, c'est très complet, toujours et puis extrêmement bien produit. On sait que on collaborait sur cet album quand même. Les Dap Kings et notamment qu'on connaît suite au merveilleux label aussi qui est Daptone Records, hein, qui
oui, tout à fait.
Les Dap Kings qui ont beaucoup travaillé avec Sharon Jones aussi qui je crois a participé aussi à l'album, et puis c'est un album qui est produit par Mark Ronson, donc voilà, je crois qu'il y avait tous les ingrédients,
oui, efficace,
en plus,
quoi.
Voilà, ouais. En plus du talent d'Amy Winehouse incontestable pour faire un merveilleux album, et c'est le cas. Donc je vous propose qu'on se quitte, on va se dire à dans 15 jours, et on va se quitter sur la voix magnifique d'Amy Winehouse et de ce morceau. Encore une fois, pas un des tubes de l'album, mais qui vous donnera peut-être une autre fenêtre pour apprécier Amy Winehouse. Ce morceau s'appelle « He Can Only Hold Her ». Voilà, c'est sorti en 2007, donc sur ce superbe album « Back to Black », que je conseille à tous nos auditeurs. Chopez-le tant qu'il est dispo. À plus, tout le monde.
Exactement. À plus, bye bye. Searching
But what's inside I never